Il avait aussi assisté à nombreuses dissections pratiquées post-mortem par des confrères médecins. Et parfois il y avait même participé. Mais plonger dans cet amoncellement d'os et de chair était une chose à laquelle rien ne l'avait préparé. Quand la deuxième fosse fut mise au jour, Robin s'approcha de son maître. « Voulez-vous que je cherche à votre place ?» Andreas, se remettant debout, secoua la tête. « Non, mon garçon, c'est bien à moi de le faire. J'en ai besoin. » Et alors il recommença son abominable exploration. Ses mains plongèrent au milieu des morts entourés de chaux, soulevèrent des squelettes, glissèrent sur les peaux en lambeaux. Et puis, enfin, alors qu'il avait déjà ouvert une dizaine de sacs, il tomba sur une dépouille qui eût pu être celle de Magdala. D'abord parce que son stade de putréfaction semblait correspondre à l'époque de sa mort. La dessiccation était presque achevée. Les parties molles avaient disparu. Et le cadavre n'exhalait presque plus d'odeur. Et ensuite parce que c'était indéniablement le corps d'une femme, dont les dernières traces de vêtements pouvaient ressembler à ceux qu'elle avait portés. Enfin, il y avait quelque chose dans la forme du crâne qui, sans qu'il eût pu vraiment l'expliquer, donnait à Andreas l'impression qu'il s'agissait bien d'elle. D'instinct, sans avoir vraiment réfléchi à son acte, il ouvrit plus largement le sac et sa main glissa lentement sur le bras atrophié, comme s'il avait voulu lui tenir une dernière fois la main. Lors, sur un doigt, il trouva l'ultime confirmation dont il avait besoin, une bague en argent, dont on avait enlevé le joyau. Sans doute ceux qui avaient récupéré le corps de Magdala, n'ayant pas réussi à lui enlever sa bague, plutôt que de lui couper le doigt comme cela se fait parfois, s'étaient contentés d'en dessertir la pierre. Mais même sans son émeraude, Andreas reconnaissait le bijou. C'était celui qu'il avait pris au coquillard qui l'avait attaqué à l'entrée d'Étréchy, et qu'il avait ensuite offert à son ami, comme il l'eût fait à une épouse. Lors, Andreas sortit de la fosse en rampant, et devant tous ses yeux qui le dévisageaient, assis par terre, démuni, il se mit à pleurer en silence. « C'est elle, » dit-il simplement en relevant son visage couvert de larmes. Alice, aussitôt, se précipita à ses côtés et le serra dans ses bras, telle une enfant son père. Et les fillettes des tempes, refermant le sac, transportèrent dignement le corps de Magdala dans le cercueil qu'elles avaient amené. Chapitre 151. Ils choisirent ensemble un petit sous-bois à l'écart de la ville, où poussaient de beaux et grands vieux chênes centenaires. La nuit était tombée, et il y avait quelque chose de solennel dans cette myriade de torches allumées que portaient les fillettes au milieu des arbres, comme une nuée de vers luisants qui dansait dans la nuit. Dans un silence cérémonieux, Robin et Alice, aidés de trois des filles, au moyen de deux cordes, firent lentement descendre le cercueil dans le trou qu'elles avaient creusé au pied du plus grand chêne. Quand le sarcophage fut tout au fond, tout le monde s'assembla autour de ce tombeau de fortune, et chacun se recueillit à sa manière. Robin, fidèle à lui-même, ferma les yeux, joignit les mains et commença une prière. Certaines des fillettes l'imitèrent, d'autres se donnèrent simplement la main. Alice, quant à elle, sortit un couteau de sa poche, contourna le gouffre et commença à graver quelque chose sur l'arbre qui se dressait au-dessus. La mère s'approcha d'Andreas, et lui serrant le bras lui demanda « Tu veux pas dire quelque chose ?»«
Je ne suis pas un prêtre, »
rétorqua Andreas dont les yeux étaient encore rougis. « Et alors, t'es pas obligé de parler du bon Dieu, couillon ?» La petite guerre haussa les épaules, puis il s'approcha du bord de l'excavation. Les filles s'écartèrent un peu et tous les yeux se tournèrent vers lui, hormis ceux de Robin qui priait encore. Andreas regarda longuement le cercueil de bois éclairé par les lueurs vacillantes des torches. Et alors, mille souvenirs confus de son ami revinrent à sa mémoire. Paris, les rires, les peines, les confidences, les douleurs. Et puis ce jour où sa maison avait brûlé. Et puis ce qu'elle avait passé avec eux au tout début de leur voyage. Oppressé par tous ces visages tournés vers lui et qui semblaient